Je vous l'ai dit, ce que nous venons de lire est la suite exacte des textes lus dimanche dernier. Et dans notre précédente méditation, nous avons pu constater, je fais juste un petit rappel, quelques points. Tout d'abord, l'opposition des scribes et des pharisiens, qui est très marquée. Ensuite, nous nous rappelons que Jésus a nourri de 5 pains et de 2 poissons plus de 5000 personnes. Et cette nourriture n'est pas une nourriture de celle qu'on achète. Les disciples voulaient acheter, il a dit non. Il restait 12 paniers de nourriture surabondante. Les 12 disciples sont les passeurs de cette nourriture entre Jésus et chacun. L'ont-ils compris seulement ? On apprend la mort de Jean-Baptiste aussi, dans le passage que nous avons lu la semaine dernière, qui était le seul jusque-là à avoir reconnu Jésus comme le Messie, celui attendu. Et donc nous constatons à partir de ce moment-là le déficit de personnes pouvant affirmer cette reconnaissance. Cependant, les disciples, lors d'une sortie sur le lac, reconnaissent Jésus comme étant celui qui les rejoint marchant sur les eaux, comme étant bien le Fils de Dieu. Ils le disent. Jésus passe aussi 2 temps de prière, nous l'avons vu, seul, éloigné de tous. Et cela m'a fait supposer que Jésus était un homme en réelle humanité, un homme qui pensait, qui réfléchissait, tout en se laissant habiter par la confiance, la paix de Dieu. Peut-être est-ce là ce que l'on appelle sa divinité. Dans notre texte aujourd'hui, nous retrouvons la contestation des scribes, et des pharisiens, et nous l'analysons comme très importante, car elle joue, si vous avez bien entendu, sur les mots « tradition » et « transmission ». Et déjà le texte que je vous ai lu avant, puis le texte que Jésus rappelle du prophète Ésaïe, nous montre que pendant l'exil, mais certainement peut-être aussi avant, des dérives de la tradition avaient été constatées. Et Jésus, justement, fait appel à Ésaïe pour parler et pour répondre aux scribes et pharisiens. Leurs remarques et leurs dénonciations sont tout de suite reprises et corrigées par Jésus. Les scribes et pharisiens parlent uniquement de tradition des anciens, c'est-à-dire des pères, qui a été transgressée par Jésus et ses disciples. Et la réponse de Jésus recadre les choses. Lui ne parle pas de la tradition transgressée, mais du commandement de Dieu qui a été transgressé au profit de la tradition par les scribes et les pharisiens. Vous sentez bien le recadrage. Et sa démonstration immédiatement met en évidence le problème. Quelle est donc la tradition des anciens qui est mise en avant, souvent par les scribes et les pharisiens? Quand vous lisez les évangiles, ils disent « Nous sommes tous enfants de Moïse et des pères ». Moïse a reçu la loi, l'a enseignée, ainsi que tous ses décrets d'application, dirais-je, et eux disent « Nous, nous sommes ceux qui sommes habilités à faire régner cette loi ». Mais, parfois, cette loi ou les décrets d'application, si on pense à la loi simplement comme étant aux 10 paroles, a été aménagée. Aménagée, adaptée selon les circonstances. Par exemple, la première fois que je vous ai vu, nous avons parlé de l'héritage des femmes. Mais jamais ce n'est pour aller contre la parole qui a été dite à Moïse. Les lois, la table de la loi, c'est toujours au contraire pour rentrer dans cet esprit et être fidèle à la parole de Dieu. Mais voilà, il arrive aussi très souvent que ces aménagements le soient pour notre vie propre, personnelle, et plus du tout dans l'esprit et la fidélité à la parole de Dieu. Et c'est ce que va démontrer Jésus aux hommes en leur parlant du commandement « Honore ton père et ta mère ». Le mot « tradition » retrouve alors son étymologie première, « tradere » en latin, et tradere en latin, ça veut dire trahir. Le mot tradition vient de trahir. Et vous le savez, toute traduction est une trahison. Et la loi rigide imposée par les pharisiens c'est plus qu'éloigné de ce qu'étaient les paroles et les commandements de Dieu au départ. Jésus prend comme exemple « Honore tes parents ». Et elle est devenue, cette loi, ou ce commandement est devenu, il y aura prescription si tu donnes l'argent que tu aurais consacré à tes parents, si tu le donnes au temple. Donc l'esprit de ce commandement, qui est de donner tout son poids humain à la transmission d'amour et à l'apprentissage du respect entre générations, est anéanti par une simple application financière. Au lieu de donner à tes parents, donne au temple, et c'est comme si tu t'étais acquitté de ce commandement-là. Pour Jésus, cet arrangement, finalement, est un refus de se reconnaître en Dieu, son Père, puisque c'est décidé à la place de Dieu. Après avoir discuté de ceci avec les scribes et les pharisiens, Jésus donne un enseignement aux foules. Elles sont là autour, elles écoutent. Les scribes et les pharisiens sont mis en défaut. Il faut qu'à la suite de les avoir mis en défaut, il y ait un enseignement positif pour ces personnes-là. Et de nouveau, on constate que les disciples ne comprennent pas ce que Jésus a voulu dire dans son enseignement pourtant si simple et si clair. Alors ils le disent et ils font une remarque sur les scribes et les pharisiens. Et Jésus, avant de leur expliquer ses propos, puisqu'il va leur expliquer, en leur disant « vous n'avez encore pas compris », rappelle une parabole qu'il a dite juste un ou deux chapitres avant. C'est la parabole sur l'ivraie et le bon grain. « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. » Il s'agit là encore de parler d'enfants. Et Jésus semble dire par là que les pharisiens se sont trompés de père et ils ont choisi de suivre un mauvais père, celui qui sème la zizanie, qui plante l'ivraie au milieu du bon grain, qui impose d'autres commandements que ceux de Dieu. Et il réaffirme, leurs propos seront déracinés en un temps décidé par Dieu. Ce n'est pas à nous de les déraciner, c'est Dieu qui procédera à cette opération par ses anges qu'il enverra quand il le voudra. Parce que, nous disait Jésus à cette époque-là, quand il discutait de cette parabole, il y a danger pour les personnes qui sont du bon grain mais qui se laissent abuser et qui risquent de chuter à cause de la confiance faite à ceux qui les égarent. C'est en cela que les scribes et les pharisiens sont cause de scandale en prenant la place de Dieu, encore une fois. Je veux dire que notre histoire de la réforme, si tout le monde s'en rappelle bien, a commencé par là. Elle a commencé par le refus, et ça a été son combat immédiat, qu'il puisse exister d'autres porteurs de la parole de Dieu que Jésus. Plus d'intermédiaires entre Dieu et le fidèle. Aucun intermédiaire, seul Jésus. Et c'est le geste de la réforme, le tout premier geste de la réforme. Alors ensuite, notre texte d'aujourd'hui, Jésus sort des frontières. Vous voyez, la frontière est là. Il sort de sa frontière pour aller vers Tyr et Sidon. Et arrivant de Tyr et Sidon, sortant de sa frontière aussi, une femme. Où donc se situent-ils tous les deux, puisque l'un et l'autre ont passé une frontière et qu'ils se rencontrent quand même? En quel lieu se retrouvent-ils? Une sorte de non-lieu, ou plutôt un lieu théologique qui est rempli de questionnements, mais aussi d'erreurs à corriger chez chacun, de regards à bousculer pour chacun, y compris Jésus. La femme, par exemple, elle a diagnostiqué un démon malmenant sa fille. Comme chacun de nous, le mal de celui qu'on aime devient une autre forme de mal pour nous. Notre amour, notre compassion n'a qu'un seul objectif, la guérison de l'autre. Jésus est connu, certainement, au-delà de ses frontières, parce qu'il y a beaucoup de commerçants, de militaires, de touristes, des voyageurs, quoi. Il est guérisseur, il est chasseur de démons, on l'a vu dans bien d'autres textes, mais on a aussi vu que ça semble l'encombrer souvent. Ce n'est pas cette reconnaissance-là qu'il attend, celle d'être guérisseur ou chasseur de démons. Il est là pour ouvrir chacun à une vie nouvelle dans son lien à Dieu. Et la femme arrive et elle utilise le langage de la tradition juive, puisqu'elle lui dit « fils de David ». Or elle n'a rien à voir avec ça, elle vient de Tyr et Sidon, ce n'est pas son langage. Elle n'est donc pas dans sa vérité par son langage, par ses mots, par ceux qui sortent de sa bouche. Alors je reviendrai à ce que nous avons lu juste avant. Est-ce aussi ce dont parle Jésus quand il parle de ce qui souille l'être humain, quand nos mots ne sont pas notre vérité? Chez les disciples aussi, il va y avoir des changements. Ceux-ci, selon les traductions du texte apolluo, peuvent lui dire soit « renvoie cette femme », soit « délivre-la ». Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une forte opposition de sens entre les deux possibilités de traduction, mais en fait, ce n'est pas ça le plus important. Ce qu'on remarque, c'est que quel que soit le sens choisi, ils sont agacés. Cette femme les embête. Qu'elle soit écoutée ou renvoyée, mais surtout qu'elle arrête de nous suivre, de crier après nous et de nous embêter. Et là, je nous retrouve les uns et les autres, souvent dans nos vies, ayant de telles réactions. Là encore, est-ce qu'en disant ces mots, on parle de l'être souillé, quand on a des paroles d'exclusion venant du cœur? Je vais même dire chez Jésus. Pour conforter la traduction des livres-là, les traducteurs de la Bible de Jérusalem disent que Jésus répond aux disciples. Dans la traduction que je vous ai lue, il a simplement l'air de réfléchir tout haut. Quelle est sa mission? Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus d'Israël. Il avait compris cette mission ainsi, en bon juif, au sein de son peuple. C'est ce qu'il affirme. Il indique donc aux disciples que le problème de la femme ne le concerne pas, n'est pas son travail. Alors, après ce premier temps de rencontre, que chacun va devoir entendre l'autre pour avancer, pour comprendre ses erreurs d'interprétation, ses rétrécissements de compréhension. Et dans la conversation, il avancera grâce à la parole de l'autre, mais sa parole aidera l'autre à avancer aussi. Pour la femme, c'est Jésus qui va la faire avancer, parce qu'il va lui demander d'une certaine manière de préciser sa demande. Et la deuxième fois qu'elle s'approche de lui, qu'elle se prosterne devant lui, elle ne lui parle plus de sa fille et du démon de sa fille. Elle ne lui dit plus « fils de David ». Elle lui dit simplement « Seigneur, viens à mon secours ». Elle parle d'elle, de son attente à elle. Et dans leur discussion sur la mission de Jésus, elle ne va pas chercher à lui dire qu'elle revendique aussi d'être enfant de Jésus, de Dieu. Non, du tout. Elle confirme sa place, celle de quelqu'un étranger venant d'ailleurs. Son but n'est pas d'essayer d'entrer dans le peuple juif. Elle ne sait même pas ce que ça signifie. Ce qu'elle cherche, c'est cette nourriture qui fait vivre, dont elle a entendu parler et qu'elle vient demander. Et dans leur conversation, on peut noter que peu importe la quantité qu'elle va recevoir, une tranche de pain ou des miettes, peu importe le lieu, assise à table avec les autres, ou comme un petit chien par terre à récupérer des miettes qui tombent, c'est pas ça l'important. C'est pas du tout ça. Elle ne veut rien voler, elle veut saisir ce qui peut lui arriver comme un don. Sa réponse est alors immédiatement reconnue par Jésus comme une réponse de foi, une foi réelle, non pas simplement l'occasion pour elle de faire guérir sa fille. D'ailleurs, si vous avez bien entendu le texte, la fille sera guérie Mais pas parce que Jésus aura fait des gestes ou des prières quelconques, elle sera simplement guérie parce que sa mère est nourrie de cette espérance, de cette foi, qu'elle est porteuse de cette nourriture et qu'elle va pouvoir la redonner à sa fille ainsi qu'à tous les gens qu'elle verra. Un petit peu comme les paniers qui repartent après la multiplication des pains. Pour les disciples, c'est Jésus qui peut leur faire entendre combien leur accueil fut rude. S'il prend du temps avec cette femme, ils vont comprendre que ce n'est pas pour se débarrasser de cette femme et de son problème, mais bien pour la rencontrer au plus intime d'elle-même. Et pour accepter qu'elle soit pour lui aussi un questionnement. Puis ensuite, peut-être le lieu de compréhension de sa mission. Les disciples ont-ils entendu ? Je n'en sais rien. Je crois qu'il faut du temps pour être disciple. Quant à Jésus, aussi bien la réaction des disciples que celle de la femme semble lui ouvrir des horizons. Avant cette rencontre, il y avait eu cette multiplication des pains. Elle était en Israël, pour les moutons souffrants ou les brebis souffrantes et égarées d'Israël. Après cette rencontre, à la fin du chapitre 15, il va y avoir une autre multiplication des pains. Mais cette fois, elle est de l'autre côté du lac. Elle est à l'étranger. Elle est donc au bénéfice de gens qui ne sont pas exclusivement du peuple de Jésus. Et les disciples seront appelés, encore une fois, à distribuer eux-mêmes cette nourriture à plus de 4000 personnes. Je pose une question simplement. Jésus aurait-il pensé et accepté de faire ainsi si cette rencontre avec cette Cananéenne ne l'avait pas fait réfléchir au fait que guérir, aimer, soigner, nourrir quelqu'un n'enlève rien aux autres, concerne si peu les frontières. Personnellement, tout comme la dernière fois, je pense que l'homme, Jésus, a été profondément interpellé par la réponse de cette femme de Canaan, et puis même décalé. Peut-être en lisant et en décryptant dans ce qu'il vivait là un message lui venant de Dieu. Je vous poserai simplement la question, dans le courant de nos vies, est-ce que ce n'est pas ainsi que nous aussi nous avançons? Au final, je note que la femme exprime sa foi plutôt qu'une croyance superstitieuse en une tradition. Elle n'invoque plus une tradition qui n'est pas la sienne, mais elle est capable, comme la Samaritaine au bord d'un puits chez Jean, d'avoir une réflexion théologique avec Jésus. Et quiconque peut avoir ce genre de réflexion. Il n'importe pas d'avoir lu tous les ouvrages de théologie écrits par de grands penseurs, non. Il importe avant tout de vivre sa foi avec son intelligence tout autant que son cœur. Il importe de comprendre l'esprit de la loi plutôt que sa lettre, sa forme légaliste, raide, figée. Sa fille n'est atteinte par aucun démon et pourra vivre ainsi aidée par la confiance de sa mère en un Dieu qui nourrit, sauve, permet l'entrée en guérison. Tel un tout petit chien, elle pourra elle aussi, par la foi de sa mère, entrer dans une dynamique de vie. Les disciples témoins de ce qui vient de se vivre sous leurs yeux vont peut-être arriver enfin à entendre et comprendre quelle est leur place dans cette histoire de nourriture symbolique, de paroles à partager, que ce soit pour le peuple d'Israël ou pour tout étranger. Jésus écoute chacun. Il réfléchit. Il répond en corrigeant les erreurs des uns et des autres, mais pas seulement. Il apprend à s'ouvrir à un message que Dieu peut lui envoyer au travers de ses rencontres. Il apprend à entendre que lui aussi peut peut-être faire des erreurs de traduction. L'amour de Dieu est bien plus profond, bien plus grand, bien plus accueillant que ce que nous pensons, que ce que nous en attendons. Alors je vous laisse réfléchir à cette question déjà posée. N'avançons-nous pas, nous aussi, dans nos vies, uniquement poussés à toujours aller plus loin grâce à l'ouverture que nos proches nous offrent? Il nous faut accepter de ne pas tout savoir, tout contrôler, Alors la vie peut enfin ressembler à celle dont Dieu nous fait don. Amen.